Rancard.
Globule Radio 90.5.
Sur Globule Radio.
À la rencontre des humains de la vallée.
En direct tout l'été.
Bonjour à tous et bienvenue dans Rancard, le magazine à la rencontre des humains de la vallée. En direct tout l'été, fabriqué pour vous par Globule Radio 90.5. Je suis Mélanie Baxter-Jones, accompagnée de Claire. Salut Claire, tu vas bien ?
Coucou Mel, oui, ça va très bien. Alors on se retrouve en direct tous les mercredis et vendredis de l'été à 17h30 chez l'un de nos partenaires.
Et aujourd'hui, nous sommes chez O-Shop, un magasin de location de ski qui aujourd'hui louerait plutôt des bouées ou des canoës. Un grand merci à Olivier Landau de nous accueillir dans son lieu. Il nous a d'ailleurs accueillis tout l'été.
Et alors, on est ensemble les deux prochaines heures. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook en direct. Et on est avec Kirstine et Jean-Claude à la technique. Est-ce que tout va bien ?
On a aussi la chance d'avoir Douglas qui est à l'image avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons accueillir Elvire Adam de la boutique de deuxième main Afterski.
Oui, et puis on va accueillir Christophe Delage qui est architecte et qui vient nous présenter le nouveau projet de la cantina. Et il va nous donner des informations exclusives.
Et il y aura aussi Max Claret-Tournier qui viendra nous parler de la grotte du Montanvert.
Et si vous ne savez pas quoi faire ce soir ou les prochains jours, suivez nos agendas, on a de quoi vous occuper comme toujours.
Et avant de recevoir Elvire Adam, on écoute We Are The People, Empire Of The Sun.
Swimming in December, heading for the city lights, and 975. We sharing each other, and nearer than father. The scent of the lemon drips from your
sur Globule Radio 90.5 et on est en direct dans notre émission Rancard. Maintenant, nous sommes aussi en streaming ou en live ou en direct, comme vous préférez dire, sans interruption sur notre site globule.chamonix.radio dans l'onglet direct. Et alors tout de suite, on reçoit Elvire.
Elvire Adam, bonjour. Elvire et Giovanni Cerci, vous êtes un peu, et je dis bien un peu, les Tic et Tac, les Laurel et Hardy, en bien moins catastrophique évidemment, les drôles de dames de Chamonix, aussi différentes physiquement que de caractère, mais en même temps les deux doigts de la même main, amis fidèles depuis de nombreuses années, partenaires de travail. Giovanna Cerci, c'est une brunette. Et c'est la brunette des deux, la studieuse, celle qui n'est pas là aujourd'hui, mais on la salue, celle qui est à la boutique. Alors, après avoir fait un an de Sciences Po à Lyon, avant de s'envoler à Philadelphie, faire un major en marketing international, tout en travaillant en parallèle en relations publiques à New York pour le groupe de Sange, puis un jour elle est revenue à Paris, on lui offre un poste chez Publicist Event. Et avant de remonter dans nos montagnes, travailler avec Candida, sa maman, à la Spigadoro, puis de créer et tenir la boutique Napa Pierri pendant 10 ans, elle a fait un petit tour en Corse dans une mairie. 2 enfants plus tard, à son retour à Chamonix, elle ouvre une salle de sport toute neuve aux Ouches, garage par Quentin, au-dessus du garage Renault. Mais Giovanna, elle a aussi adopté un autre style de vie, en poussant, en se poussant, en cherchant la limite, en se sortant de sa zone de confort, en faisant des Spartanes, des courses à obstacles. L'autre, la blondinette, celle aux grands yeux souriants, le petit bout de femme géniale, c'est Elvire Adam. C'est elle qui est avec nous aujourd'hui. Alors vous avez suivi le rêve de votre papa d'être monitrice de ski. Et ça, vous l'avez eu, votre médaille. Mais il n'est pas rare que les rêves des autres, on les abandonne pour laisser naître nos propres envies. Alors vous aviez grandi, baigné dans la boutique de déco de votre maman et dans l'architecture de votre papa. Vous avez toujours été passionné par les belles choses. Vous avez un regard différent sur le monde et ça fait vraiment du bien à Chamonix. Vous aimez les gens, vous aimez le contact des gens. Alors vous avez décidé de travailler en boutique avec la maman de Giovanna, justement, Candida. Et vous avez créé une boutique à Chamonix, rue des Moulins, de meubles contemporains italiens, venu tout droit d'Aoste, Contempora. Puis vous avez travaillé 10 ans chez Patagonia, fabriqué 2 enfants. Après une bataille contre une maladie et un nouveau chapitre de vie en épingle à nourrice, vous êtes parti 2 ans et demi au Maroc, à Essaouira, avec la nécessité de déconstruction et de reconstruction personnelle. Avec aussi l'un de vos fils et son CNED à soutenir. Là-bas, vous faites des sacs, entre autres, en cuir et puis des sacs de souk auxquels vous rajoutez des wax de tissu africain. Bref, vous faites des choses, beaucoup de choses, pour faire travailler ceux qui en ont besoin. Vous créez. Puis à votre retour à Chamonix, vous proposez à Giovanna d'ouvrir une boutique de deuxième main dans son garage. Mais vous avez réalisé votre projet beaucoup plus grand et la boutique est enfin née et elle s'appelle Afterski. Ça fait 3 ans qu'Afterski a vu le jour, une boutique atypique, une ambiance intérieure chaleureuse, des habits d'hommes, de femmes, d'enfants, mais aussi du matériel technique vintage dans de beaux meubles. Un endroit où on s'arrêterait presque boire un thé à la menthe, lire un bouquin, mais certainement le super endroit pour trouver des merveilles, des fringues, des nippes, des trésors techniques ou juste, pas techniques, mais juste pour danser. Elvire Adam, bonsoir.
Bonsoir Mélanie.
Alors vous avez créé cette boutique de deuxième main, dans quel but? C'était quoi l'idée?
L'idée c'était de revenir à Chamonix après nos deux parcours, Giovanna et moi, et puis travailler, parce qu'il faut bien travailler. Et moi je n'avais plus du tout envie de retourner sur les skis, donc l'idée m'est venue à force qu'on me pose la question, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas rentrer du Maroc? Qu'est-ce que tu vas faire après ta séparation? Alors, à force de dire « je ne sais pas », un jour, on m'a posé la question et c'est sorti directement. J'ai dit à cette personne « je vais monter un dépôt vente avec ma copine Giovanna dans son garage ».
Et pas du tout Giovanni, comme j'ai dit au début. Je ne sais pas pourquoi, c'est Giovanna évidemment.
Voilà. Donc, et puis ensuite, j'ai croisé Giovanna, je lui ai soumis l'idée. Et puis, elle était avec son mari qui a dit, mais non, c'est pas une bonne idée dans le garage. Il faudrait trouver un local à Chamonix. Alors là, on s'est dit, local à Chamonix, c'est quand même assez compliqué. Mais on a regardé, enfin, Giovanna a regardé dans les petites annonces. Là, elle a toujours l'habitude de fouiner dans son téléphone. Et puis, il y avait un petit local, impasse des Rhododendrons, juste à côté de la fameuse cantina, l'endroit où on a passé tous notre enfance, enfin notre jeunesse plutôt. Et puis, et on est allé voir le propriétaire du local. Et puis, il ne croyait pas trop à notre projet. Il trouvait que c'était un peu difficile. Et puis, il avait plusieurs corps de métier. Il voulait plutôt des bureaux. Donc, il avait des architectes, il avait des nutritionnistes, il avait plein de gens, mais qui n'étaient pas de Chamonix. Et à force de passer le voir en lui disant, mais tu sais, nous on croit à notre projet, on y croit, et bien un jour il nous a dit, vous savez quoi les filles, vu que vous êtes chamoniardes et que les autres ne le sont pas, et bien je vais vous donner la chance de prendre le local.
C'est magnifique.
Voilà.
Ça, c'est
donc une belle histoire. Le remercie déjà, ouais. Parce qu'on a eu vraiment de la chance, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à Chamonix à cette époque. Et puis ce petit local, il est super agréable, il y en a une super vue, on est un peu perdu, mais on a quand même le parking de Super U, c'est bête à dire, qui nous fait de la pub. Et puis maintenant, il y a la cantina qui va lancer son nouveau projet. Enfin, ça
on va
les
recevoir
la cantina.
Juste après vous,
ouais,
d'ailleurs.
Je sais.
Ouais.
Et donc, je pense que cette petite impasse qui était un peu perdue, elle reprend vie. Et voilà, on est très contente. Et puis, l'idée de refaire un deuxième main, c'était pour lancer quelque chose qui n'existait pas à Chamonix, mis à part Sabrina avec Oh My Dressing.
Oui.
Alors du coup, on était un peu embêtés par rapport à elle, mais on a décidé depuis le départ, nous, de faire plutôt des articles de sport, s'axer sur le sport.
D'accord.
Et puis, tout ce qui est vintage, matériel, ski, tout ce qui tourne autour de sport. Bon, après, comme on a des déposants, on prend un peu ce qui arrive.
Ce qu'on vous propose, ouais.
Et on trie, bien évidemment, pour avoir les produits qu'on a envie de vendre
dans la
boutique qui n'est pas très grande.
Alors, c'était quoi d'abord au début ? C'était pour lutter un peu contre la surconsommation, le gaspillage aussi ? Est-ce que ça, c'est un impact qui est important pour vous ?
Oui, bien sûr, parce qu'on vit quand même dans une époque où la surconsommation fait tourner un peu la planète n'importe comment. Donc, il y avait ça. Moi, j'ai toujours aimé faire les dépôts-ventes. Dès que j'allais dans une ville, je cherchais les adresses sur mon téléphone et j'aimais bien trouver justement des petites boutiques un peu atypiques. Et puis, l'économie circulaire, c'est quand même quelque chose qui est important de nos jours. Et puis moi, je trouve sympa de pas trouver les mêmes choses que dans tous les autres magasins.
C'est sûr que du coup, on peut s'habiller un peu,
exactement, un peu
différemment, pas comme tout le monde.
Exactement.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve exactement ? Parce que dans votre boutique, on peut trouver des chaussures de ski, mais pas ouais. Enfin,
alors, on peut
de
trouver
montagne,
des chaussures de ski.
Mais des chaussures pour aller danser aussi. Hein.
Tout à fait.
C'est génial,
à paillettes.
Ça, quand même. À paillettes.
Ah, on
ouais,
a tout.
J'adore.
On a même les robes qui vont avec, les tenues de soirée. On a aussi toute une collection de ski années 80. Alors, surtout, on vend surtout ça en fin de saison, quand il y a toutes les compètes ou les
vintage.
Les
et tout vintage. Ça,
ouais. Bon, malheureusement, cette année, ça n'a pas trop marché, puisqu'on a fermé un peu rapidement, comme tout le monde. Mais voilà, on est à l'affût aussi de tout ce qui est vintage, ski, et puis aussi vêtements, sportswear, hommes, femmes.
Vous devez vous marrer quand même de passer de la basket à la robe à paillettes, non ?
C'est très drôle. Des fois, on ouvre des sacs, vraiment, on se marre.
Oui, j'imagine. Alors justement, vous parliez de sacs que vous ouvrez. Comment on fait si on veut déposer quelque chose ? Comment ça se passe ?
Alors, nous, on ne donne pas de rendez-vous pour les dépôts. On propose aux gens de venir avec ce qu'ils ont. Bon, en sachant qu'il faut quand même que ce soit en bon état, propre, dans le style de la boutique, donc du technique, du vintage, des choses de marque essentiellement. On ne prend pas du tout de Décathlon et toutes les petites marques qui valent déjà pas cher sur le marché. Et donc après, ils viennent au magasin avec leurs affaires, on fait le tri. Et on fait les prix ensemble. Alors, on essaye quand même pour que la boutique puisse continuer de faire marcher ce petit business. Donc, on est obligé de prendre 50% pour nous et 50% pour les gens. Et comme nous sommes assujettis à la TVA, eh bien, on est obligé à la vente de rajouter la TVA puisqu'on la paye. Parce qu'au début, on n'a pas fait ça et on s'est rendu compte que c'était très compliqué de faire perdurer le magasin.
Donc, si on apporte quelque chose qu'on veut vendre 20 euros, par exemple.
Eh bien, il y aura 20 euros pour la cliente,
ouais.
20 euros pour nous, et à la vente, il y aura la TVA qui sera rajoutée.
Très bien.
Voilà.
Eh bien, on va écouter Don't Easy to Cook de Cannibal, et on se retrouve juste après, Elvire Adam.
Merci.
Decided on how to cook it in a pressure cooker in a Bain-Marie. It is a delicate and sweet dish. It is a delicate and sweet dish.
No, not easy to cook.
The microwave oven will do the trick. I turn the knob to 966. It is a delicate and sweet dish. It is a delicate and sweet dish.
Gosh, this cookery is so sweet,
orange bubbles and it looks at me. His half open mouth is trying to speak. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish.
No, not easy to cook.
Still hot and steaming, approaches me. My name is Christian, put me in your belly. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish.
Sur Globule Radio 90.5 et vous pouvez nous rejoindre en live sur Facebook, Globule Radio Chamonix. Mais parfois le flux est interrompu, donc je vous conseille de nous retrouver en vidéo sur le site de Globule, globule.chamonix.radio, menu live vidéo sans interruption et en haute qualité. Et alors on est toujours avec Elvire Adam.
De la boutique After Ski. Alors Elvire, quel a été l'impact pour vous du Covid sur votre boutique? Parce que tout le monde a été un peu impacté. Des gens ont été impactés très négativement, d'autres un peu positivement. Vous, c'est un peu les deux, je crois.
Nous, c'est tout à fait les deux.
Alors,
oui.
Racontez-moi ça.
On a été un peu forcés de fermer très rapidement le magasin. Donc ça a été un peu violent dans le mode de travail, parce que nous, on préparait notre fin de saison, justement, avec tous nos petits vêtements années 80, qu'on avait bien rentrés juste avant. Et puis on s'est confinés, comme tout le monde. Et puis le confinement, on l'a bien vécu, finalement. Ça nous a fait du repos. Positivement, le côté très positif de ce Covid, c'est que nous étions en bail précaire dans le local, donc on devait vider les lieux pour retrouver un autre local. Et notre propriétaire, avec qui on a toujours eu des très bons rapports, pendant le Covid, nous a proposé de nous vendre le fonds. Donc ça a été vraiment génial pour nous, parce que déjà, on peut continuer notre aventure after ski. Et puis en plus, on est chez nous, donc c'est toujours sympa.
Bon, ça c'est rassurant en fait.
Très
ça fait
rassurant.
Du bien.
Voilà.
Et puis vous avez réussi du coup à l'acheter avec after ski.
Et en plus, on l'a acheté avec after ski.
Donc ça, c'était la bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle.
Et bosser entre copines, ça se passe comment? Parce que parfois, ça peut être magnifique, comme ça peut être terrible, hein, parce que vous avez des bons caractères toutes les deux quand même.
Alors oui, on a des bons caractères très différents. On est très différentes et on est très complémentaires. Et il n'y a jamais eu un saut d'humeur entre les deux. On s'entend vraiment très, très bien.
Ouais, c'est génial.
Alors, peut-être parce qu'on est nés sous le même ciel. On a 2 jours d'écart.
C'est vrai.
Voilà. Mais franchement, c'est une super collaboration. Et c'est vrai que notre comptable nous dit c'est rare quand même qu'il y ait des gens, des associations comme ça qui se passent aussi bien.
Très bien. Alors, il y a des gens qui sont un petit peu réticents pour acheter du deuxième main. Ça arrive, hein, y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Comment vous pourriez les inciter, vous, à venir? Parce que souvent, les gens ont peur que ça ne sente pas bon. Alors moi, je trouve que dans votre boutique, ça sent super bon. Mais
nous, notre boutique, elle sent bon, évidemment, hein, on s'en occupe.
Ouais, comment vous pourriez les convaincre, en fait?
Déjà parce que nous, on récupère que des vêtements en bon état.
Ouais.
On demande qu'ils soient lavés. Donc, ça, c'est déjà important. Et puis, on a des fois des problèmes avec les chaussures. Il y a des gens vraiment qui n'aiment pas acheter des chaussures d'occasion. Bon, après ça, c'est un choix qui se respecte. Mais la boutique est propre. Les vêtements aussi. Avec le Covid, on essaye de désinfecter la cabine, les poignets, toutes les petites choses obligatoires en cette période. Mm-hmm. Voilà, après, y a des gens qui ne veulent pas acheter de seconde main. C'est leur choix, mais... Moi, je les incite quand même à venir voir au magasin parce que parfois, on a beaucoup de vêtements qui sont neufs.
Bien sûr.
Voilà. Donc, faut venir voir pour avoir son avis.
Ça permet aussi aux gens de la vallée qui ne sont pas tous richissimes de pouvoir se faire plaisir avec des habits de qualité, quoi.
Tout à fait. Alors, surtout, l'automne et le début d'hiver, on travaille énormément avec les saisonniers. On a une grosse clientèle de saisonniers qui trouvent vraiment, qui sont ravis du magasin parce qu'ils trouvent toutes leurs tenues de ski, même les choses, les boots de snowboard, les snowboards à des prix défiant toute concurrence. Et c'est vraiment une super clientèle. Et voilà. Et en général, on travaille très peu l'été. Et d'ailleurs, le Covid nous a aidés cet été parce que je pense qu'il y a eu plus de monde à Chamonix. Et c'est le premier été où on travaille aussi bien. Mais notre grosse saison, nous, c'est l'automne.
D'accord.
Voilà, c'est pour ça qu'on est ouvert toute l'année, parce qu'il y a vraiment les gens qui travaillent en saison, ils sont libres qu'à cette période-là. Donc on travaille beaucoup l'automne.
Est-ce que vous allez participer à la braderie?
Alors, on participe à la braderie, elle va avoir lieu d'ailleurs.
D'après ce que j'ai lu, enfin les dernières informations que j'ai lues, ouais, elle était encore
Alors
maintenue.
Nous,
celle d'Argentière l'a été en tout cas la semaine passée.
Ouais, alors peut-être. Nous, on brade un peu toute l'année. Donc, ce qu'on fait, c'est que comme c'est en fin de saison et qu'on prépare la saison d'hiver, donc on vide quand même pas mal de choses du magasin. Et tous les articles qu'on a depuis longtemps, qui sont d'ailleurs plus aux propriétaires, parce que le dépôt-vente, au bout d'un an, les gens qui ne sont pas venus rechercher leurs affaires... La propriété du matériel est au magasin. Mmh. Alors nous, on est plus cool, on attend un peu, mais bon là, on a quand même depuis l'ouverture des choses qui sont encore dans le magasin, donc qui nous prennent beaucoup de place. Donc on fait toujours un petit portant dehors à 5-10 euros, voilà. Donc comme pour le Covid, on a sorti plein de cartons et à donner. On jette rien, on donne beaucoup de choses. Quand c'est abîmé, on propose à nos clients de le donner à des gens qui travaillent au Super U, qui ont de la famille dans des pays étrangers, qui ont besoin de beaucoup d'affaires. Donc on leur fait des grands sacs qui partent qui partent à l'étranger.
D'accord. Vous nous rappelez votre adresse et vos horaires d'ouverture ?
Alors, notre adresse, c'est 48 impasse des Rhododendrons. On est ouvert de 10h30 à 12h30, de 15h à 19h. Pour le moment, on est fermé le dimanche. Et nous donnons de toute façon toujours nos horaires ou nos changements, parce que des fois, en intersaison, on ferme une journée supplémentaire. Et donc, on a un site Instagram, afterski-chamonix. Et puis là, vous avez toutes les infos. On poste aussi pas mal de choses quand on a des beaux arrivages, tout ça. Donc, c'est un site qui est marrant, voilà, qui est pris en main par Giovanna, qui s'en sort très bien. Et voilà, donc on est ouvert toute l'année également. Et puis, on vous attend.
Eh bien, on viendra. Merci beaucoup, Elvire Adam.
De rien.
Merci à vous. On écoute London in the Rain, ou Chamonix in the Rain, plutôt aujourd'hui, de Variety Lab. London.
C'est une belle journée et la perspective d'une soirée enflammée.
Ouais, mais on fait quoi ce soir ?
Globule Radio 90.5.
Alors normalement, nous célébrons l'incroyable UTMB cette semaine, mais à la place, Lucky Chin présente le Rétro Racing vendredi. Alors venez habiller de votre meilleure tenue de sport rétro pour une boisson gratuite. Musique en direct de notre boys band Squid Liquid, à partir de 19h. Ça sera à l'intérieur parce qu'il fait mauvais temps. Alors, dépoussière ton lycra et viens t'amuser au kitchen à partir de 19h ce soir.
Et sinon, demain, à partir de 10h30, je vous propose un déjeuner œnologique. Ça se passe au hameau Albert Ier. Donc, c'est Marc-Henri Mialon qui est chef sommelier du restaurant gastronomique et qui a à cœur de faire partager sa passion des vins. Donc, une fois par mois, il propose les déjeuners œnologiques au hameau Albert Ier. Donc, c'est vraiment l'occasion de rencontrer un ou plusieurs vignerons pour partager leur savoir-faire. Et vous allez pouvoir déguster avec eux les vins qui font leur fierté. Donc, c'est demain à 10h30.
Est-ce que vous vous souvenez de Mèche Bigot que nous avons reçue il n'y a pas très longtemps? Elle était venue nous parler du ski assis en compétition et de son association Sit and Ride. Et bien justement, pour financer sa saison prochaine, ils font un événement demain, vendredi 29 août à 18h chez Ski Rock à Valorcine. Il y aura Black Réfugié, Nama Dubbed Live Band et DJ Natty Coco qui seront là. Toutes les infos, vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook Sit and Ride.
Et dimanche, c'est la fameuse Garden Party à la Crèmerie, comme on vous l'annonce chaque semaine. Donc, c'est un endroit magnifique au milieu du bois du Boucher, avec toujours de la bonne musique. Donc, c'est de 14h à 18h, mais vous pouvez aussi aller y déjeuner avant. Ce sera calme. La musique commencera qu'à 14h, mais pensez à réserver.
Dimanche de 18h à 19h30, il y a un concert à l'EMDI. Alors c'est Guilio Cantore d'Italie et Emmanuel Martin d'Inde du Sud. C'est 1h30 de musique du monde, de l'Italie à l'Inde du Sud. Ça sera un très très beau moment à l'EMDI avec des encas indiens.
Et dimanche aussi à 17h30, il y a ciné-débat autour de l'Osum Chosum. C'est la retraite de 3 ans, donc c'est au cinéma Vox. Dans la tradition bouddhiste, la retraite, c'est un moment précieux et intense pour qui veut cheminer vers l'éveil. Et durant 3 ans que dure l'Osum Chosum, les retraitants méditent et pratiquent le dharma, c'est la voie du Bouddha de manière intense. Donc la projection sera en présence du réalisateur Philippe Werneret et d'autres personnes qui ont participé au documentaire.
Et du coup, j'ai un truc, les filles, tu as dit que ce soir, c'est le squid liquide au kitchen.
Ouais.
Ça me fait trop rire parce qu'en c'est le squid lips. Et...
Lips, bah, je sais pas, je me suis trompée.
Le squid
lips, band, mais oui, délicieux. Oui, squid lips.
Merci.
In Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Oh, you, oh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, oh, you, oh, I'd leave it all. Oh, for you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you. Oh, to you. Ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. They don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you.
my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Globule Radio 90.5. Pour ceux qui ont raté l'émission, vous pouvez toujours réécouter les rencarts en entier et les interviews une par une sur notre site globule.chamonix.radio au menu podcast. Avant de rencontrer Max Claret-Tournier qui va nous parler du Mont-en-Vert et surtout de la grotte du Mont-en-Vert, on rencontre là tout de suite Christophe Delage. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Alors Christophe, vous êtes né à Paris et vous avez grandi sur la Côte d'Azur, à Antibes plus précisément. Et durant toutes vos vacances de jeunesse, vous n'avez cessé de faire les allers-retours à Chamonix. Vous êtes fils de résidence secondaire, comme vous me l'avez glissé tout à l'heure, d'une maman très impliquée dans l'alpinisme qui était fidèle cliente de la compagnie des guides. Elle a d'ailleurs été reconnue et décorée pour ses grandes courses et expéditions à travers le monde. Un autre célèbre guide de la compagnie, Paul Pariset, qui est aussi architecte, vous a transmis ses deux passions, la montagne et l'architecture. C'est d'ailleurs lui qui a refait le refuge des Cosmiques. Quelques années plus tard, c'est vous qui faites celui du Goûter. Après vos études supérieures à Paris, vous vous êtes installé à Chamonix et vous y avez passé vos premières 10 années d'architecture en montagne. Vous avez choisi de vous installer ici avec une certaine prétention de vous engager dans la vie de Chamonix. Vous connaissiez bien la vallée et avez beaucoup arpenté les montagnes. Vous avez voulu mettre vos compétences au service de la ville et de ses citoyens. Alors, je me demande pourquoi vous avez choisi de vous impliquer dans des projets publics.
Ah, c'est quelque chose qui est venu à moi plus que je l'ai décidé. Après mes 10 premières années d'exercice professionnel et un certain regard sur l'urbanisme à Chamonix en général, je me suis senti impliqué, pas toujours d'accord sur les différentes orientations prises et avec un sentiment de pouvoir donner une certaine compétence et une expertise sur un regard et sur le développement de la ville, notamment suite au... Je suis arrivé au moment de l'incendie de la salle Michel Croz, de toutes ces catastrophes de montagne, juste à la veille des années 2000. Et ça m'est resté en mémoire, et notamment cet incendie de salle des fêtes, sur lequel je me suis toujours dit qu'il pouvait se passer quelque chose. Et ça a créé une ouverture et une possibilité dans le redessin de la ville, et notamment entre cette place du Mont-Blanc et le centre-ville, voilà, entre autres.
Vous avez été conseiller municipal dans la liste de l'opposition. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous en êtes arrivé là?
C'est une grande richesse, on va dire une expérience professionnelle et sociale importante. Les rouages de la vie politique, les fonctionnements, le temps que ça demande aussi à mener, à tenir un projet. Donc c'est une expérience très enrichissante.
Et pourquoi avoir choisi de vous impliquer dans la vie politique? Alors, comment vous en êtes arrivé à être conseiller municipal?
Et ça a commencé par des réunions lors des premières municipales dans lesquelles je me suis impliqué. Et j'ai été, en 2008, parachuté avec une demande assez inédite pour tenir une liste qui s'appelait J'aime Cham. Mm-hmm. Et qui m'a mis le pied à l'étrier, parce qu'en étant tête de liste, j'ai été confronté au journalisme, aux questions, aux réflexions. Et par la suite, alors on n'a pas continué, j'ai pas continué, la liste s'est dissoute. Et pour la mandature d'après, j'ai été invité à participer de nouveau à des thèmes, notamment sur l'architecture, sur l'urbanisme en particulier en fait.
Oui, et notamment, vous aviez un projet pour rénover la caserne de pompiers. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
C'est un grand sujet que j'ai effectivement défendu. Mais alors, ça date notamment de cet incendie de la salle Michel Croz, qui a permis une ouverture sur les quais de l'Arve. Et des projets étaient déjà... J'avais suivi avec Paul Pariset, en arrivant en 98. Il y avait eu des projets qui datent des années 90 sur les aménagements de cette place du Mont-Blanc, que certains estimaient vide, qu'il fallait peut-être repeupler, qu'il fallait densifier. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu un peu de difficulté avec le grand projet de Chamonix Nord, avec les coupoles, les tours qui étaient très controversées. Et c'était une occasion de créer, de voir une liaison possible avec cette ouverture sur l'Arve, sur les quais d'Arve, sans la salle Michel Cros, d'ouvrir une impasse qui était jusque-là une impasse avec la caserne des pompiers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la caserne des pompiers n'était pas propriété de Chamonix, était propriété du département, et puis ça traitait la sécurité et le développement routier du département. Donc ça n'était, on peut dire, on n'était pas vraiment, on n'avait pas les rênes et on n'avait pas le pouvoir de décider ou d'orienter une éventuelle rénovation pour ce bâtiment. Mais à la suite de ça, avec le temps, il a fallu une vingtaine d'années, même plus, pour que petit à petit, la sécurité soit déménagée au Pèlerin, avec la nouvelle caserne. Et le CERD, donc les routiers, le département routier, a été aussi déménagé vers un autre site. Ce qui fait que, et puis il y a eu un protocole d'accord entre Chamonix et le département pour que Chamonix récupère ce bâtiment. Et effectivement, en amont, j'ai beaucoup défendu la possibilité de rénover et de réhabiliter cet espace qui représentait pour moi le nouvel espace culturel, c'est comme ça que je l'imaginais, entre une association avec la maison des associations, la MJC.
Globule Radio aurait pu avoir des locaux dedans, par exemple.
Globule Radio, toute forme, et puis aussi un café peut-être plus... un café ouvert sur la place du marché. On a toutes les villes qui ont un marché qui fonctionne bien, comme c'est le cas de Chamonix, a son café du marché. Et là, la commune, à mon avis, a raté une occasion d'avoir un lieu dynamique, un lieu de réunion à travers cette caserne, qui pouvait aussi se lier avec la rénovation du musée alpin. Enfin, en fait, beaucoup de projets auraient pu collaborer, se retrouver au centre de cette place pour créer un lieu de vie.
Et alors maintenant, vous vous êtes tourné plutôt vers le secteur privé, pourquoi ?
Probablement un peu par déception, ou même pour faire un petit peu aussi une réflexion plus dynamique avec des investisseurs privés qui sont effectivement plus à même de mener un projet. Et donc, j'établis sur mon exercice professionnel, j'essaye d'orienter mon activité vers le soutien d'une vie sociale locale avec des projets qui seraient bénéfique à l'héritage de Chamonix, à l'ADN peut-être de Chamonix.
Alors oui, on va parler après une petite pause musicale d'un projet qui est en cours avec vous. Mais tout de suite, on écoute Why Does It Always Rain on Me de Travis.
Le cœur ouvert par mon canif.
Globule Radio 90.5. Vous pouvez nous rejoindre en live sur Facebook, Globule Radio Chamonix. Un petit coucou à Daniel et un grand merci pour votre message et à Justin aussi qui nous regarde et qui nous ont mis des petits mots. Désormais, si vous voulez voir notre flux non interrompu, vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur notre site de Globule, globule.chamonix.radio, menu live vidéo. C'est sans interruption et en haute qualité. Nous sommes toujours avec Christophe Delage.
Oui, alors Christophe, vous faites partie d'un groupe de 6 skieurs qui défendent les valeurs du ski. Vous avez opté pour un investissement équitable, vous avez mélangé vos compétences et vous avez choisi de créer et faire revivre un lieu historique qui n'est autre que la cantina. Alors est-ce que vous, déjà vous pouvez nous raconter l'histoire de ce lieu ?
Le lieu, la cantina, c'est un établissement qui reste en mémoire de beaucoup de jeunes gens, de plus âgés aujourd'hui, mais qui est un lieu mythique et de vie très, on va dire, très prononcée sur autour du ski, autour de l'innovation, de très péchu et qui réunissait des jeunes, des anciens, toutes générations confondues, faisant vivre et la musique en particulier. D'ailleurs, je tiens à remercier tout ce qui s'est passé à travers Couleur 3 et cet élan formidable qu'a donné la cantina et ce dynamisme qu'a donné la cantina à l'époque. Et voilà, donc c'est un établissement malheureusement qui a connu dans les années 90 une perte d'activité, qui a été repris, mais bon, dans d'autres, avec d'autres orientations, plus de restauration en particulier. Et qui a ensuite été mis en vente et pendant plusieurs années avec des difficultés pour réhabiliter ce lieu. Je crois que pas mal d'investisseurs se sont arrêtés en cours de projet pour des raisons d'urbanisme, pour des raisons de coûts et de retour d'investissement difficiles.
Et alors, quelles sont vos ambitions ? Enfin, c'est quoi les ambitions que vous avez pour la nouvelle cantina ?
Alors, écoutez, déjà, c'est une histoire de personnalité, comme vous avez dit, proche d'une bande de skieurs, très investis dans l'univers de la montagne, très amoureux de Chamonix et de son esprit. Et c'est avec cette intention qu'on s'est lancé dans ce projet de rénovation. Alors, on a pris les choses de façon assez simple en disant qu'on ne changera pas la destination de ce local. Ça simplifie énormément d'un point de vue d'urbanisme, puisque on reste sur un hôtel, restaurant et bar, restaurant, hôtel. Dont le but est d'accueillir des gens d'un peu partout, de pouvoir accueillir autant les locaux et l'international, on va dire, le ski bump et les banquiers, en quelque sorte, de réunir un peu tous ces amoureux du ski et de la montagne sans distinction particulière sociale. Et donc de refaire vivre, probablement, très certainement, à travers la musique, à travers des échanges d'expériences et de renouveau. L'idée quand même majeure, l'ADN, étant de refaire, de se souvenir, de refaire vivre ce lieu mythique, à travers un mémoire de ce qu'ont laissé nos prédécesseurs sur le ski, l'innovation dans la glisse. Et, voilà.
Et alors les rénovations, elles ont commencé. Comment vous avez repensé le lieu en termes de décoration, de couleur, d'ambiance ?
Mais écoutez, ça, je vous laisse le soin de le découvrir.
Ce
évidemment.
Sera la surprise.
C'est une surprise. On a déjà commencé à annoncer le nom et le concept. Il est basé un petit peu sur ce côté ski fun, avec des couleurs vives, avec un certain dynamisme, beaucoup d'images, une grande banque d'images, des invités pour lesquels on a pas mal d'idées de créer des événements, notamment très certainement en venant vers vous. Pour
une collaboration, pourquoi
pas. Pour une collaboration et déjà pour une éventuelle émission avant ouverture de présentation.
Ce serait super. Mm-hmm. Et alors, vous parliez du nom juste avant. C'est quoi le nouveau nom ?
Ça s'appelle Cosmic.
Vous avez changé le nom de la cantina.
On a
vous
eu
avez
cette...
osé changer le nom de la cantina.
On a eu cette audace, oui. Et on est parti sur un commun accord sur Cosmic pour des raisons assez évidentes de ce que représente ce mot, entre le couloir, l'arête, le refuge, le lieu. Pour les skieurs, ça reste une descente merveilleuse quand elle est très abordable, très accessible. Et voilà, c'est. Donc, et puis, il y a aussi une dimension, évidemment, au-delà, dans le cosmique, pour aller voir ce qui peut se passer dans le cosmos et dans le.
L'au-delà. L'ouverture, elle est prévue pour quand ?
L'ouverture n'est pas tout à fait définie. On est sur des. On est probablement sur une saison d'hiver prochain, avec, on l'espère, des événements qui pourraient se produire avant. Puisque les travaux, bon, on a pris du retard avec les événements de Covid,
de confinement.
Mais on arrive, on aboutit le projet et on serait prêt à probablement accueillir des événements avant l'ouverture.
Alors, est-ce que vous avez d'autres infos à nous communiquer sur la cantina que vous voulez partager avec nous ?
Sur Cosmic,
maintenant qu'on connaît le nouveau nom.
Des infos particulières, écoute, non, pas particulièrement, non, on fera, on a une stratégie de marketing qui est mise en place et qui va se dérouler au cours de l'automne. Je pense que déjà on peut partir sur une éventuelle émission avec vous pour l'ouverture, par exemple.
Ce serait super. On parlera de tout ça en off. Et ben, merci beaucoup, Christophe, d'être venu au micro de Globule Radio. On va écouter « Danser dans le noir » de Baron sur Globule Radio.
Globule Radio 90.5, on est toujours en direct de Au Shop, le magasin d'Olivier Landau. On le remercie pour son accueil. Il nous protège de la pluie. Et justement, en partant de la pluie, nous avons Justin qui va nous présenter la météo.
La météo avec chamonix-meteo.com.
The local meteo by chamonix-meteo.com.
Sans surprise, le ciel restera couvert toute la soirée et toute la nuit sur la vallée de Chamonix. Les averses continueront elles aussi, devenant fortes jusqu'en milieu de nuit, mais s'affaiblissant peu à peu. La limite pluie-neige se situe vers 3000 mètres et les températures ne descendront pas en dessous de 10 degrés dans la vallée. Le vent pourrait être fort, voire tempétueux en altitude. Demain, oubliez vos barbecues, piscines et bronzages, le temps sera à nouveau très couvert puisque l'ensoleillement sera proche de 10% dans la vallée. Les averses seront faibles et éparses dans la matinée, mais pourront devenir plus fréquentes dans l'après-midi. La limite pluie-neige se situe vers 2900-3000 mètres. Le vent sera également fort en altitude et les températures seront comprises entre 11 et 16 degrés. Merci à notre partenaire chamonix-meteo.com pour les prévisions.
Globule Radio 90.5. Et pour les accros de la vidéo, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos d'émissions sur la chaîne YouTube Globule Rancard. Et pour les mordus du podcast, vous pouvez aussi vous abonner à nos podcasts via l'annuaire de podcasts. Ça fait beaucoup de podcasts. Apple iTunes. Et vous les retrouverez sous Globule Rancard et Globule Interview.
C'est pour les podcasts, c'est ça?
Oui, c'est pour les podcasts.
Génial.
Alors, qu'est-ce qu'on accueille tout de suite, Mélanie?
Alors, qui est-ce qu'on accueille? On accueille Max Claret-Tournier. Bonsoir. Max Claret-Tournier, vous êtes venu nous parler de la grotte de la mer de glace creusée chaque année depuis le milieu du 19e siècle. Elle accueille aujourd'hui 400 000 visiteurs par an, sauf enfin un Covid. Hein. Mais bon, ça reste tout de même l'un des sites les plus visités du département. On va remonter un petit peu dans le temps. C'est l'une des principales attractions pour les touristes se rendant en vallée de Chamonix. C'était visiter une grande voûte d'une hauteur de 20 à 30 mètres formée par l'Arveyron à la sortie du glacier. À l'époque, elle était créée par la nature et donc il arrivait qu'elle n'arrive pas à se former et qu'elle s'effondre. En 1862, un entrepreneur étranger propose de créer une grotte artistique sur le modèle de la galerie creusée par des visiteurs sur le glacier inférieur de Grindelwald. Mais les Chamoniards, eux, y préfèrent réaliser leur propre projet. Alors après avoir envisagé d'aménager la voûte de l'Arveyron, ils optent finalement pour une solution beaucoup moins dangereuse en creusant intégralement sur le flanc droit du glacier une galerie de 25 mètres menant à une rotonde. Avec à l'entrée un petit mazeau qui faisait office de crèmerie pour ravitailler les touristes et vendre des souvenirs. Déjà à l'époque, on vendait des souvenirs. Donc cette première grotte a été creusée d'avril à juin 1963. Ça connaît immédiatement un grand succès et elle est alors appelée la grotte de cristal ou même le palais de cristal. Et à cette époque, la mer de glace descendait jusqu'en bas. Elle terminait dans le village des Bois et c'est là que se trouvait cette grotte. Mais le glacier étant en phase de recul rapide à partir de 1870-71, la grotte ne se formait plus. Donc en 72, la grotte a été creusée au glacier des Bossons. Ça avait déménagé, changé de glacier sous le nom de grotte du Mont Blanc. Mais ce projet n'a pas vraiment perduré. Aujourd'hui, la grotte, votre grotte, enfin celle que vous creusez dans la mer de glace, elle est juste en dessous du montant vert et c'est le cas depuis 1946 sous l'impulsion et le travail acharné de Georges Claret. Lui, il a creusé à la pioche. Son plan se stabilise à partir de 1953 avec des galeries raffinées menant des salles abritant des meubles, des sculptures de glace. Et puis, comme le sentier menant à la grotte était étroit, mais surtout que l'afflux des touristes était devenu très très important, on a décidé de construire un téléphérique en 1960 pour sécuriser, mais aussi pour amener tous les touristes depuis la gare pour qu'ils n'aient pas trop à marcher. Alors que le niveau de la glace a été assez stable pendant les 40 premières années d'exploitation, le glacier s'est remis à fondre rapidement à partir de 1983, essentiellement à cause d'un accroissement des températures. Et puis il a perdu des centaines de mètres d'épaisseur et rendu nécessaire la construction de 550 marches. C'est bien ça? On est toujours à 550 là?
Ouais, alors on en a même enlevé un petit peu cette année.
Ah.
Parce que la zone où on se trouvait a carrément perdu toute sa masse. Donc on a dû se déplacer 120 mètres en amont.
D'accord.
Faire de gros travaux pour pouvoir creuser la grotte cet été. Ouais.
Et donc cette grotte, c'est une histoire familiale sur trois générations. C'est une jolie histoire. Georges et puis Jean-Marie qui laissent tout doucement sa place à Benjamin. Moi, ce qui me fascine et ce qui me plaît avec cette grotte, c'est ce travail si rude, c'est presque un travail de titan, pour nous faire pénétrer à l'intérieur de la glace, 20 mètres sous la surface. Il y a cette couleur fascinante de la glace, ces bleus qui sont presque indescriptibles, mais qui semblent d'une pureté incommensurable. Ce silence, enfin quand il n'y a pas trop de monde dans la grotte, ou quand c'est la morte saison. Puis il y a aussi les craquements du glacier. Et puis être au centre des éléments, de ces bulles d'air qui ont été enfermées dans la glace, respirées par d'autres vieilles de plus de 200 ans, ça me touche, puis ça me fait frissonner. Aujourd'hui, je suis très heureuse, chers aux auditeurs, de recevoir un grotus. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit le vrai mot, mais moi, c'est toujours comme ça que je vous ai appelé. Je ne sais pas comment on dit un creuseur de grotte.
Ouais, si, c'est ça, on nous surnomme les grotus.
Les grotus, voilà. Ouais. Et donc, vous êtes Max, Claret Tournier. Max, avant de creuser la glace, vous étiez sur la glace, ancien joueur de hockey en Magnus, défenseur pendant plusieurs années de l'équipe des Chamois, qui est devenu les pionniers, je me risque à le dire, mais c'est ça. Bon, pas si ancien que ça, parce que vous avez quoi, une trentaine d'années, peut-être un peu tassé.
Ouais, j'ai 34 ans.
Ouais, alors une trentaine d'années, donc vous n'êtes pas si vieux. Et puis, vous avez été intronisé par votre frère et votre bande de copains, et ça fait 7-8 ans déjà que vous y travaillez, d'abord comme agent d'exploitation, et puis vous avez appris à creuser. Alors, il n'y a pas d'école pour ça, pas de formation, ça se fait sur le tas de glace. Mais bon, depuis trois ans, vous creusez. Bonsoir, Max Claret Tournier.
Bonsoir.
Alors, cette année, moi, je ne suis pas allée la visiter, la grotte. J'y vais chaque année, mais cette année, je ne sais pas, ça n'a pas fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Racontez-nous un peu. Sans tout dévoiler, hein. Quelque chose un peu secret.
Évidemment, cette année, c'est un peu spécial avec le Covid.
Ouais.
Donc, comme tout le monde, on a été confinés. La grotte était en préparation, on était en train de la creuser. Donc,
vous avez été confiné pendant que vous creusiez la grotte?
Ouais, en fait, nous, on l'attaque en février.
Ouais.
Donc, mi-mars, on nous a confinés, donc on a dû tout stopper. En général, il faut 3 à 4 mois pour la faire. Donc là, on est tous rentrés chez nous. À partir de la mi-mai, on est revenu sur place. On a demandé à la mairie, aux gens concernés, pour pouvoir ouvrir, comment il fallait qu'on la fasse, ce qu'on avait le droit de faire, pas faire.
Ouais.
Du coup, on nous a clairement dit que ce qu'on faisait habituellement, les petites salles avec les sculptures pour les enfants, les petits châteaux, les petits trucs comme ça, cette année, c'était pas possible. Donc voilà, cette année, c'est juste une galerie qui est assez longue, plus large. On a dû la faire plus large pour le passage des gens, tout ça. Et on a eu la chance, il y a 2 ans, que Luc Moreau, glaciologue, ouais, nous fasse une dizaine de tableaux avec beaucoup d'explications sur le glacier, sur l'âge de la glace, la formation, tout ça. Donc voilà, cette année, on a ça qui permet aux gens de pouvoir rester un peu dans la grotte et de s'intéresser à tout ça, quoi.
Mais vous n'avez pas fait trop de sculptures? Vous avez quand même sculpté un peu ou vous n'avez pas eu le temps?
Ah, on aurait pu avoir le temps, mais c'est surtout qu'on n'a pas eu le droit, en fait.
Voilà. Vous n'avez pas eu le droit?
Ouais, d'accord. Parce que du coup, comme c'est des sculptures où les gens se prennent en photo dessus, et ils peuvent toucher. Sûr. Donc cette année, on nous a dit c'est non.
D'accord. Voilà. On n'a aucune visibilité sur la mort du virus par le froid? Non, on ne sait pas.
On ne sait pas.
Ok, donc vous avez toujours une grotte d'avance, d'habitude.
Ouais.
Bon, bah, pas cette année. Donc vous commencez à creuser au mois de février.
Ouais, c'est ça.
Et on attaque en février. Ça prend combien de temps? Parce que vous l'ouvrez à partir de quand?
On l'ouvre en général début juin, ouais, pour la saison d'été. Si tout va bien, ça prend entre 3 et 4 mois pour vraiment la finir. Voilà, ça fait 2 ans qu'on a quelques soucis. Bah, cette année, le Covid, l'année dernière, en la creusant, on est tombé sur un éperon rocheux à l'intérieur du glacier.
Ah ouais.
Donc on a perdu 2 mois, en fait. Il a fallu trouver une autre solution, revenir dans une vieille grotte, tout reprendre. Et voilà. Et ouais, en général, c'est 4 mois.
4 mois, d'accord. Et la fonte du glacier?
Ouais.
Vous, ça fait donc 8 ans que vous êtes,
ouais,
presque tous les jours sur le glacier?
Ouais, quasiment, ouais.
Vous la voyez vraiment?
Ah oui, franchement, c'est... Ouais, non, c'est flagrant.
Ouais.
C'est vraiment flagrant, ouais.
C'est flagrant. Et du coup, il y a quoi? Il y a beaucoup moins d'épaisseur, en fait. Hein. C'est surtout ça, en fait, qui,
ouais,
est... Qui, pour
alors,
vous, en tout cas...
Ce qui se passe, donc, d'après les glaciologues qu'on a la chance de croiser,
sûr,
Ludo,
ouais,
Ravanel,
Luc
Moreau,
Ludo,
tout,
ouais,
ça...
Ouais. Qu'on salue.
Voilà, qu'on salue. Le glacier, au stade où il en est, il avance quasiment plus. Donc il n'y a plus d'arrivée de glace, de masse. Donc il est vraiment posé sur place et il fond. Donc nous, on voit vraiment un glacier qui est en train de perdre en épaisseur. Je crois que l'été dernier, on a perdu 15 mètres d'épaisseur. Donc nous, on voit tout changer. On a un rythme de travail où on a 4 jours de congé, 4 jours de boulot.
Ouais.
Et quand on revient de 4 jours de congé, ben, là, on se rend compte, on fait waouh.
Ah oui,
carrément. Ouais, non, en 4 jours, on arrive à faire une vraie comparaison, quoi.
Alors c'est ça, c'est-à-dire que vous creusez la grotte pendant plusieurs mois, mais après vous partez,
ouais,
pas en vacances, quoi. Il y a du boulot
non,
tous
non,
les
non,
jours dessus.
Ouais,
comment
sûr,
ça se passe, ça?
Alors en gros, on arrive le matin. Il y a 2 équipes qui tournent ensemble. On arrive le matin. Ce qu'il faut faire, c'est tous les matins monter sur le glacier, s'encorder, tout ça, en crampons, tout, et on va enlever les pierres qui sont ressorties de la glace dans la journée. Toutes les pierres qui sont un peu au-dessus de l'entrée et tout pour pas qu'il y ait d'accident.
Qu'elles tombent sur
évidemment,
les gens, ouais, ouais.
Donc on gère tout ça, on doit gérer à l'intérieur de la grotte. On a, avec le passage des gens, ça a tendance à quand même beaucoup, comment dire...
Bouger, ça bouge.
Ouais, ça bouge le sol et tout. Donc on est obligé de reprendre à la pioche. On a des pioches spéciales pour la glace, donc on reprend tout à la main. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. On essaie de beaucoup anticiper, mais on a quand même beaucoup de mal à gérer tout ça, quoi.
Bien sûr, on va écouter un petit peu de musique. Sweet Disposition de The Temper Trap, et on se retrouve juste après.
sur Globule Radio 90.5. Et pour ceux qui ont raté l'émission, vous pouvez réécouter les rancards en entier et les interviews une par une sur notre site globule.chamonix.radio, menu podcast. Et alors, nous sommes toujours avec Max, Claret Tournier, qui est Grotu.
Alors, Max, vous avez évolué en équipe de hockey. Et il me semble aussi que votre équipe de Grotu, c'est une vraie équipe, quoi. Hein, que peut-être le travail que vous avez fait ensemble, je vous trouve vraiment tous super soudés. C'est important parce que c'est rude quand même comme travail.
Ouais, si t'es pas soudé dans ce boulot-là, ça peut pas marcher, ça explose. Parce qu'on est vraiment amené dans cette période de creuse-là, notamment à monter, ça arrive souvent même, le lundi matin, on monte en train et on redescend le vendredi midi. On dort là-haut, donc on vit ensemble 24 heures sur 24. Donc faut... Ouais.
Alors comment ça se passe creuser alors du coup ?
Alors la creuse, si on prend...
Il y a une machine ?
Ouais, bien sûr, il y a une machine. Il y a une machine qui a été faite, moi je ne pourrais pas te dire le nombre d'années. C'est un prototype, elle marche encore super bien. Voilà, c'est une machine qui a une tête qui tourne avec des picots en ferraille au debout et qui fait le gros du travail. Après, il faut vraiment façonner la forme de la grotte, c'est tout à la main, à la pioche. Ouais. Donc ça demande pas mal d'efforts.
Ça fait un peu mal aux épaules quand même,
ouais,
hein,
ouais,
tout
ouais,
ça,
ouais,
c'est
ouais,
fatigant.
Ouais. C'est ça.
Là, maintenant, on peut voir sur la mer de glace, juste là où il y a la grotte, des grandes bâches blanches.
Ouais.
Alors, c'est quoi ces bâches ?
Alors, ces bâches, elles sont spécifiques pour les glaciers. C'est vraiment pour empêcher le soleil, la chaleur, de faire fondre
l'épaisseur,
la glace. Donc, nous, on s'en sert principalement pour créer des murs qui vont empêcher les pierres, avec la fonte de tout l'été, de revenir sur l'entrée de la grotte. Donc, on s'en sert pour ça, mais ça a vraiment un impact énorme.
Ah ouais, ouais. Ça change beaucoup de choses pour vous ?
Nous, ça nous aide beaucoup, mais ouais. Nous, on voit qu'en en une journée, on peut avoir 20 cm d'écart, une grosse journée de chaleur, sous la bâche et à côté de la bâche, justement. On peut perdre 20 cm, quoi.
Ah ouais.
Ouais, donc
et vous disiez qu'il y avait beaucoup de pierres, elles tombent des moraines, du coup, ces pierres ?
Ouais.
Parce que vous me disiez, elles ressortent du glacier, mais c'est les deux, non ?
C'est les deux.
C'est les deux, ouais.
Il y a les moraines qui s'éboulent,
ouais.
Voilà, donc le glacier les ramène.
Ouais.
Et il y a aussi tout ce qui a été, on va dire, englouti en amont, à haute altitude, avec les éboulements l'été, et qui arrive avec le glacier, et ça arrive qu'on en attrape.
Et les anciennes grottes, alors ? Parce qu'elles deviennent quoi ?
Eh ben, ces anciennes grottes, elles sont abandonnées parce que ça devient trop dangereux,
ouais,
du coup.
Ouais.
Ce qui se passe depuis 5-6 ans, on va dire, c'est que comme le glacier n'avance plus, les grottes, elles restent sur place, ça fond, et voilà, ça s'ouvre par le plafond, en fait,
ouais.
Voilà, et elles disparaissent. Il y a encore 5-6 ans, le glacier, qui sont avancés, les emmenaient, les refermaient, les bouchaient.
Oui, voilà. Même elles allaient plus loin, parfois,
ouais, c'est ça.
On pouvait
distinguer 4-5 grottes qui partaient dans la vallée.
Oui, oui. Là, elle reste sur place maintenant.
Ouais, maintenant, c'est tout figé, ouais.
Et du coup,
ouais,
c'est vachement plus compliqué pour vous de trouver des lieux pour les creuser.
Exactement, c'est ça le problème. C'est pour ça que cette année, on a dû partir en amont. Et on se rend compte, en voyant les marches, mais vraiment quand on est sur le glacier, qu'on peut distinguer toute la descente des marches, qu'on est vraiment en train de partir en amont. Avant, c'était vraiment un circuit qui descendait un peu verticalement.
Ouais.
Et là, on part vraiment à l'horizontale, en amont, sur le glacier, quoi. On cherche des endroits pour pouvoir faire ces grottes.
Alors, est-ce que ça abîme le glacier ?
Ben, on va pas dire que ça fait du bien. Après, l'impact, sincèrement, il est vraiment minime. Parce que on voit en amont, là, justement, l'homme n'intervient pas.
Ouais.
Le mal est déjà...
C'est
énorme.
Déjà fait, quoi.
Ouais.
Bien sûr. Et du coup, est-ce qu'il y a des animaux, des chamois qui viennent chercher
qui descendent
et viennent visiter la grotte ? Ils vous laissent des petits caca.
On voit des traces l'hiver avec la neige.
Ouais.
On sait que dans les marches, ils ont trouvé un petit endroit où ils viennent passer toute la nuit.
Ah voilà.
Ouais, tous les matins, c'est rempli de crottes et tout.
Ouais.
Donc, il y a 4-5 chamois. Toutes les nuits, ils ont trouvé leur endroit. Et ils viennent
dans la grotte complètement, carrément ?
Dans la grotte, je ne sais pas. Ça a dû arriver.
Ouais.
On voit des crottes à l'entrée. Après, est-ce qu'ils vont vraiment dedans ? Je ne sais pas.
Ouais, parce qu'on se demande si les animaux, pour les gens qui, des gens peuvent avoir peur de rentrer dans cette grotte. Enfin, moi, j'ai déjà vu des gens devant la grotte dire, ouais, non, en fait, je vais remonter les escaliers.
Oui, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, une dame claustro, elle a jamais pu y aller, quoi.
Et oui.
Ouais, donc.
Ouais. Depuis plusieurs années, là, vous utilisez de plus en plus de lumière aussi dans la grotte.
On essaye de, pas trop, non. On essaie
un
de garder
peu.
Un. Comment dire, vraiment d'axer la lumière sur les bulles d'oxygène, les couleurs, les veines qu'il peut y avoir avec les pierres à l'intérieur. On a un peu, baisser d'intensité, ouais, quoi, si je puis dire.
C'est bien, tant
ouais,
mieux.
Ouais, ouais.
Et du coup, ça, c'est vous qui le faites ou est-ce que c'est quelqu'un qui se déplace pour le faire ?
Non, on a une personne, un électricien qui vient tous les ans mettre ça en place. Ouais. Nous, après, on entretient. Voilà.
Vous êtes venu aujourd'hui avec Lynn, mm-hmm. c'est ça, qui est là. Et je voulais savoir, toi, est-ce que tu allais la visiter, la grotte ?
Oui.
Oui ? Et qu'est-ce que toi, tu aimes dans cette grotte ? Qu'est-ce qui te fait...
C'est la glace.
Ouais. Et ça te rend fière que ton papa y creuse cette grotte ?
Oui.
Ah bah, je comprends. Moi, je serais vachement fière aussi. Hein. Il fait un très, très beau travail. Ouais. Même s'il n'y a pas d'animaux, tu l'as aimé quand même, la grotte,
oui.
cette année ? Ouais, c'était différent ?
Parce que je suis allée.
Ouais.
Avec mon tonton. Et on est allé se promener sur la glace.
Vous êtes aussi allé vous promener sur le glacier ?
Oui.
Génial. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous deux d'être venus nous voir.
Merci à vous.
Et puis, ben, bonne fin de saison et puis
merci.
Bonne future grotte.
Merci beaucoup.
Claire sur Globule Radio 90.5.
Alors ce soir, à cause de la pluie, on vous conseille de vous enrouler dans vos couettes. Il n'y aura pas de concert. Mais merci d'être avec nous, en tout cas. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Globule Radio Chamonix. Et faites-nous part de vos commentaires. Il nous reste quelques émissions avant de finir l'été.
Oui, deux émissions exactement. Merci d'avoir été avec nous et merci à nos invités d'être venus au micro de Globule au Shop.
Avant de vous laisser, je vous rappelle qu'on se retrouve tous les mercredis et vendredis à 17h30 en direct sur Globule Radio 90.5.
Et on se retrouve mercredi au Little, le slow food de la vallée de produits bio et locaux. Et il y aura le groupe Edgar en exclusivité ce soir-là, alors marquez-le bien dans vos agendas.
Et vendredi soir, après, au Sahov Bar, il y aura Ali Mulred. On vous laisse en musique sur Globule Radio.